Je n'ai pas encore été partout, mais c'est sur ma liste. Une phrase de Susan Sontag à qui je reprends cette bonne idée de faire des listes de choses totalement impossibles à faire. Je vais faire la même pour mes vacances. Ça donne l'impression que l'impossible est à la moitié du chemin. Bienvenue dans le Mac de l'été où on croit encore un peu que la culture sauve le monde. Et ce soir, pour parler de culture qui sauve, ou du moins qui permet de vivre, nous sommes avec un aventurier. Bonsoir Damien Castera.
Bonsoir Marie.
Ancien surfeur pro, vous êtes l'auteur de La Liberté ne meurt jamais, paru ce printemps dans la collection Blanche de Gallimard, où vous racontez vos différents séjours en Ukraine. Vous êtes parti en mars 2022, seulement deux semaines après le début du conflit, où vous êtes retourné ensuite, et où vous nous montrez, entre autres, comment justement les artistes résistent à leur manière. L'Ukraine, c'est pas votre premier voyage, loin de là. Ça, c'est presque un métier chez vous, voyageur. Ça m'a donné envie de vous voir discuter avec une philosophe qui s'appelle Juliette Maurice et qui a écrit « Renoncer au voyage ». Point d'interrogation. Et puis au milieu de tout ça, à 18h30, je vous offre un panorama de culture avec des coléoptères dedans. Alors sortez les radis, buvez de l'eau, massez-vous le cou, je m'occupe du reste. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Marie Misset.
Damien Castera, le livre est sorti au printemps. Il y avait aussi eu un documentaire du même nom, La Liberté ne meurt jamais, diffusé sur LCP en 2024, qui est disponible sur YouTube. Si les auditeurs nous entendent, ils peuvent aller regarder. C'est assez génial parce qu'on peut mettre des visages sur les noms que vous citez dans le livre. À l'époque, et d'ailleurs dans le livre, il y a ce moment où vous retournez en Ukraine montrer ce documentaire. Quelle énorme différence vous faites entre la première fois où vous allez en Ukraine et le moment où vous revenez pour montrer le documentaire ?
Il y a une grosse différence. Entre les deux, il y a quasiment deux ans. J'y retourne pour les deux ans, justement la commémoration des deux ans du début de la guerre. Et les Ukrainiens que je retrouve sont fatigués. Deux ans de guerre. Je me souviens qu'au début du conflit, les bureaux de recrutement étaient remplis, qu'il y avait la queue. Qui avait un patriotisme et une envie de résistance très forte. Et c'est sûr que quand j'y suis retourné, on sent tout de suite le manque de moyens humains. Il y a peu de renouvellement
l'usure
des troupes. Il y a l'usure énorme. Après, le mental et le moral est toujours là parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est vivre ou mourir un peu. Donc c'est sûr que. Mais c'était vraiment très dur de les revoir deux ans après. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore pire puisqu'il y a vraiment une accélération des combats par drone. Toutes les nuits, il y a à peu près 400 drones qui terrassent l'Ukraine. Et donc, c'est vraiment, on est en train de pousser la population à la folie. Les gens se réfugient dans le métro tous les soirs et c'est assez tragique. Ouais.
Mais La Liberté ne meurt jamais, c'est le titre de votre livre. Il a été traduit ? Il sera traduit.
Il faut demander à Gallimard.
Avant de se plonger dans votre parcours, dans ces séjours, dans ce que ces séjours vous ont appris, n'oublions pas qu'on est le Mac de l'été, c'est-à-dire test de la personnalité, c'est l'interview. Haute saison. L'été, c'est synonyme de quoi pour vous, Damien Castera?
Ah, l'été, pas mal de choses. C'est ce moment de l'année où les glaçons fondent avant qu'on ait le temps de finir son verre. Non, plus sérieusement, c'est le moment où les plages se remplissent et où généralement je quitte un peu le littoral pour aller me réfugier en montagne.
Ah oui, parce que vous êtes totalement basque, 100%. Et donc voilà. Vous, c'est plutôt un moment où vous fuyez.
Ouais, l'été, paradoxalement, c'est le moment en tant que surfeur qu'on attend parce que l'eau se réchauffe et que c'est assez agréable de pouvoir profiter des belles températures. Mais c'est aussi le moment où il y a beaucoup de monde, donc je laisse un peu la place et je me mets un peu au calme à l'intérieur.
Sympa. À quoi ça ressemblait justement vos étés enfants ?
Alors enfin, j'ai eu la chance pendant une dizaine d'années de passer tous mes étés sur les côtes sauvages de Galice en Espagne avec mon père, ma mère et mon frère, mon oncle et mon cousin d'ailleurs pour faire le tour. Et donc c'est là où j'ai vraiment, je pense que la graine a été plantée. On campait pendant plusieurs mois et on a appris très jeune à connaître les mystères des fonds marins, à reconnaître les poissons, les algues et à pêcher pour manger parce que c'était le but quand on faisait pas trop les courses. On pêchait pour manger.
Ah, vous carrément, enfin, vous faisiez pas les courses.
Un peu de lait, peut-être,
de yaourt.
Mon père avait fait des études d'océanographie, de biologie marine, ma mère plongeait aussi, et très jeune, en fait, on était sur une plage vraiment déserte, et l'idée, c'était de pêcher le poisson pour manger le soir.
Et la Galice, ça ressemble un petit peu à l'Irlande, j'ai découvert ça dans une série cette année sur Arte.
Ouais, et à la Bretagne, c'est
l'arc celte.
Ouais, c'est ça.
C'est quoi les odeurs, du coup, des étés de votre enfance ?
Alors les odeurs, ben en Galice, il y a une odeur très particulière. C'est des plages constellées de granit et il y a beaucoup d'algues qu'on appelle des laminaires qui sèchent à marée basse sur la plage. Donc c'est une odeur spéciale.
Dans l'idée, ça a pas l'air super.
Non,
comme
mais
odeur.
Alors c'est la petite Madeleine de Proust. Moi, j'adore ça.
Ah ouais. Ouais. On va aller un peu plus loin, je vais vous remettre dans l'ambiance de l'été de vos 20 ans à l'aide de quelques petits sons. On est en 2003, l'été, tenez-vous bien, de la toute première flash mob française, je doute que vous vous en rappeliez, mais il se passe bien d'autres choses.
Merci Lara de nous avoir guidés jusqu'ici, aidez-moi pour la suite et vous y gagnerez.
Non.
Songez tout de même à ce que je vous offre, l'opportunité de découvrir comment tout a commencé. Ne venez pas me dire que tout cela ne vous séduit pas.
C'est ce qu'a fait Pandore à son détriment.
Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss. And I better shake that thing, yeah, da-da-da-da.
France Inter.
Les incendies, les dégâts de la sécheresse, la pollution, les restrictions d'eau et maintenant un véritable drame humain. La canicule de l'été 2003 restera dans les annales. Voilà des semaines que la France vit dans la fournaise et cette chaleur tue. Principale victime, les personnes âgées.
Baissez mon froc, j'en suis capable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser.
Qu'est-ce que vous avez reconnu, Damien Castéra, dans ces sons?
Pour être honnête, pas grand-chose.
Vous avez Florent Pagny, quand même,
si,
sur la fin.
Ben, voilà, parce que vous me le dites.
Et la canicule de 2003, qui aujourd'hui paraît presque anecdotique.
Exactement.
Vous vous en rappelez de vos étés de cette époque-là, de vos 20 ans? Qu'est-ce que vous disiez, la tête dans l'eau tout le temps? Les doigts frippés par
oui,
l'eau salée.
Oui, non, je me souviens pas exactement de 2003, mais oui, bah de toute façon, l'été, c'était dans l'eau, hein, tout le temps.
Ouais, on en sortait pas
sous
beaucoup.
Sous l'eau ou sur l'eau.
En compétition encore de surf?
Ouais, les compétitions, j'ai pratiqué jusqu'en 2011. Donc l'été, oui, particulièrement, c'est là où on avait à peu près tous les événements nationaux, internationaux. Ouais.
Donc ça bougeait pas mal. On continue à parler de vous dans quelques minutes. Mais on prolonge un peu le plaisir. On reste en 2003. C'est Mariah Carey, c'est Busta Rhymes. Qui, rappelez-vous, chantait I Know What You Want.
Yeah. Shorty, I know what you need. I got everything you need. I promise I ain't gonna hold out neither. I'm gonna give it all to you, baby. Swear it on. Bust it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you, I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it.
We've been together for a few years, shed a few tears, called each other nickname like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home. Always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated. Patience getting short, how longer can you tolerate it? Listen, ma, I'm just motivated. I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it.
Hey,
now.
Yo, to really be honest, you stuck with me through my whole struggle. Can't even express the words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never above you. Well, I could tell that you different from most, slightly approach you. And the ill shit about it, we don't sex every day. But when we sex, we tease in a passionate way. Love the way you touch it, those little elaborate ways. Got the guard feeling released to relax for the day, it's on you.
Baby,
ma,
if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it.
Baby, if you give it to me,
mommy, listen, I feel your love for me, baby, and how it moved through you. I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get up and go. Putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with me.
We started out broke, constantly on the road. Cutting up in the streets like we would never get old. Went from Lucy's and buses and 50 cent sodas and Novas to Hondas to Lexus to Rovers. Mad years past, still got each other back. Word is born, never screw none of these industry cats, boy. We like Skull and Mulder, walking shoulder to shoulder, milking this game, watching our seeds getting older.
Baby, if you
give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it.
Surfeur, c'est qu'il est dans un élément qui est totalement indifférent à son existence. Et là, je reviendrai peut-être sur une catégorie esthétique qu'avait souligné Kant, c'est le sublime. Le sublime, c'est ce sentiment esthétique qui naît lorsque on est confronté devant l'immensité de la nature et que l'on mesure la petitesse qui est la nôtre. Je contemple l'immensité de la nature, je me perçois si petit dans cette immensité, mais en même temps, je me dis, j'ai le privilège de savoir cela.
Frédéric Shifter, auteur d'une petite philosophie du surf au micro de Raphaël Enthoven dans Les chemins de la connaissance sur France Culture. Damien Castera, vous êtes l'auteur de La liberté ne meurt jamais, édité chez Gallimard. Vous êtes aussi, ça c'est très classe, aventurier et documentariste. Mais avant ça, vous étiez surfeur pro. Qu'est-ce que vous en pensez de ces quelques mots du surf et du sublime?
Citer Kant et surf dans la même phrase, c'est pas mal.
Ça donne un petit peu de cachet à l'activité, quoi.
Ouais, bien sûr. Ben, c'est sûr qu'après, il y a une image d'Épinal que le surf a et qui a pas mal changé quand même, notamment avec la surpopulation des spots de surf qui fait que on est moins dans le romantisme et plus dans la compétition. Même, quand on surfe tous les jours, il y a tellement de monde dans l'eau que pour avoir une vague, on est dans une compétition
perpétuelle.
Donc l'image un peu du surfeur romantique avec l'océan, la nature, et aujourd'hui le surfeur ressemble de plus en plus à un footballeur. Mais
du surfeur même seul face à la vague, à l'immensité de la nature, il voit des petits copains partout autour.
Il y a encore quelques endroits, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Moi, assez rapidement dans ma carrière de surfeur, j'ai arrêté la compétition pour justement essayer d'explorer des endroits où on peut se retrouver face à la nature, comme l'Alaska ou la Patagonie, ou dans des endroits en Afrique où il y a pas encore de... Voilà, ça s'est pas encore démocratisé, c'est des endroits un peu durs d'accès où ça demande autre chose que juste arriver en voiture sur le parking et aller surfer. Oui.
Et alors, c'est quoi les sensations que vous recherchez encore aujourd'hui quand vous allez dans ces endroits un petit peu plus déserts, quand vous faites du surf? Le sublime, on l'aura compris.
Ouais, bon, alors ça c'est une évidence, mais moi j'aime bien quand c'est englobé dans un tout, c'est-à-dire que par exemple en Alaska, quand j'ai passé plusieurs mois là-bas, on dort dans la forêt, on pêche son poisson, on a des voisins de forêt qui sont des ours et des loups, donc on apprend pas mal de choses, on réactive un peu notre instinct et notre... Oui, c'est sûr que... plusieurs semaines dans une forêt remplie d'ours, on réactive pas mal de choses. Ouais.
Notamment un petit truc de survie. C'est le surf qui vous a amené au voyage et en même temps ce qui vous a dégoûté d'une certaine forme de voyage. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est comme ça que vous êtes allé plus vers du surf libre. Vous avez beaucoup utilisé ce talent-là pour voyager, pour partir faire du surf dans des vagues inconnues. Mais ça vous a aussi amené à votre première expérience de guerre. De guerre qui était passée quand vous êtes allé faire votre documentaire sur d'anciens enfants soldats au Liberia. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est des enfants qui utilisaient le surf pour guérir un peu.
Ouais, c'était donc à l'époque, comme je faisais plus les compétitions, je faisais à peu près un projet par an. L'idée, c'était d'essayer de découvrir une nouvelle vague et de vivre une aventure sur laquelle on pouvait écrire un récit ou tourner un film documentaire. Et j'avais entendu parler d'une vague coincée entre le Sierra Leone et le Liberia. Je crois que c'était une photo dans un mag de surf de militaires de l'ONU qui avait américain.
C'est précis. Voilà.
Non, mais parce qu'il n'y avait absolument pas de touristes là-bas. Donc, je crois que c'était des militaires en poste à l'ONU, à Monrovia, au Liberia, qui avaient mis une photo de surf là-bas. Et en fait, on a découvert une petite communauté de surfeurs qui utilisait donc le surf comme outil de résilience après 20 ans de guerre civile particulièrement atroce.
Et qu'est-ce qu'ils y retrouvaient, justement? Pourquoi ça marchait particulièrement? Et c'était une communauté tous d'anciens enfants soldats?
Alors, il y avait plusieurs générations. Il y avait la génération de ceux qui ont vécu la guerre et qui, eux, utilisent vraiment le surf comme une espèce de catharsis, un échappatoire, un moyen de... Ouais, un moyen d'extérioriser un peu tout ça. On connaît les bienfaits du sport et imaginez le sport quand il est pratiqué dans l'océan ou quand on plonge sous une vague, on a l'impression de se laver,
nettoyer
de ses péchés,
de ses
démons. Voilà, de se nettoyer. Donc cette génération-là avait une trentaine d'années et puis la génération des enfants qui eux n'ont pas connu la guerre, qui sont des enfants juste au lendemain de la guerre en fait, qui eux sont plutôt canalisés par ce sport et cette passion plutôt que de traîner dans la rue et d'être attirés dans des gangs et des, voilà, du trafic. Ou...
En tout cas, ça vous a mené vraiment à beaucoup d'endroits. Le surf, quand vous décidez de partir en Ukraine, c'est aussi une communauté de surfeurs que vous contactez au tout début. Cette expérience des voyages, des aventures même, vous voyez l'effet de la guerre sur certaines personnes, c'est quand même pas la même chose que d'aller vraiment sur le terrain voir une guerre, documenter une guerre, ce que vous avez fait en 2022, deux semaines après le début du conflit. C'est quoi l'urgence de partir? C'est quoi le moteur à ce moment-là?
Le moteur, il est multiple. L'envie de s'engager dans quelque chose de concret à une période de ma vie où j'en avais besoin. Le fait que géographiquement c'était accessible, que j'avais du temps libre, que j'avais un camion que j'ai pu remplir de matériel médical pour l'acheminer là-bas.
Le camion est déterminant dans cette histoire.
Le camion est déterminant. Mais en fait, l'idée c'était que je voyais les stocks de matériel médical s'accumuler dans les mairies, dans les pharmacies. Tout le monde donnait des médicaments pour l'Ukraine, mais personne ne les amenait là-bas. Enfin, il manquait cruellement de camions pour y aller. Donc, j'avais du temps. J'avais pas encore de famille. J'avais pas d'enfants à cette époque-là. Et voilà. Donc, l'idée c'était d'acheminer le matériel médical et puis de fil en aiguille, ben. Après ça, je suis passé journaliste. Puis
Vous avez écrit pour le JDD avant le rachat par Vincent Bolloré.
Le fameux.
Vous avez été nourri de récits de grands aventuriers, de reporters de guerre. C'est vraiment vos lectures d'enfance. Est-ce que vous pensez que ça vous a influencé? Est-ce que vous pensez que c'est le moment où vous vous dites je vais pouvoir faire ça moi aussi, même si la situation est dramatique, même si je vais sûrement voir des choses horribles?
Oui, totalement. Ma figure tutélaire, je pense, c'est Kessel, voire London aussi. Je crois qu'on appelle ça le syndrome de Tom Sawyer, quand on s'imagine toujours le héros de son propre roman. Et qu'évidemment, on se prend à jouer pour Kessel, pour London. Et c'est sûr qu'au début de la guerre, quand je voyais ces images et que j'étais un peu dans l'incertitude de savoir est-ce que je vais en Ukraine, je pense avoir convoqué l'esprit de Kessel en me demandant ce qu'il aurait fait à ma place et voilà. C'est une motivation supplémentaire.
C'est un petit mentor. C'est marrant parce que vous avez beaucoup dit en interview notamment que vous cherchiez à participer à quelque chose de plus grand que vous en partant en Ukraine. Le début de ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est que le surf c'était aussi se mesurer à plus grand que soi. Est-ce que vous faites ce parallèle aussi?
Ouais, là j'avoue que j'ai pas pensé.
C'est moi qui le fais.
Non, voilà. Non mais c'est pas mal. J'y réfléchirai à tête reposée. Mais c'est sûr que s'inscrire dans un projet commun, c'est un peu rare aujourd'hui. Je pense que notre société moderne tend à l'individualisme et c'est vrai que en Ukraine, il y a un mouvement qui s'est créé, c'est la résistance et que tout le monde regarde dans la même direction. Même les disparités politiques au sein même du pays sont quasiment effacées. C'est-à-dire que tout le monde Poutine a eu au moins cette vertu, c'est de consolider l'identité nationale en Ukraine, quoi.
On en parle, bien sûr, de l'Ukraine, celle que vous avez documentée, l'Ukraine des artistes aussi dans quelques instants. Ce sera juste après le panorama culture et David Walters, accompagné de Kezia Jones, qui nous invite à prendre le temps. C'est quitte et couler, en français, laisse couler. Hey. Get down inside the team, be right here, right now. That's where we want you to be. Be right here. Right here, right now.
No one knows en bas de l'eau, yo les mettez-nous en bas. Yo les mettez-nous en bas de l'eau, yo les mettez-nous en bas.
Just like memory.
Yo les mettez-nous en bas.
Just like life, yeah.
Yo les mettez-nous en bas de l'eau.
Just like water.
Yo les mettez-nous en bas.
Just like time, yeah.
Yo les mettez-nous en bas de l'eau. Coupé, crié, maman de l'eau. Et que fait Ayan Bao? Ayan Bao.
Quitter, couler ou laisse couler, c'était le talentueux David Walters qui a annoncé la sortie prochaine d'un nouvel album. Et là, il est avec le classique Kezia Jones. C'était à l'instant.
Le mag de l'été. Marie Misset. Sur France Inter.
Tous les jours à 18h33 et 28 secondes, le mag de l'été en mode vigiculturel. Aujourd'hui dans le panorama, on se fait un point festival, on assiste à un spectacle inédit au musée d'Orsay et on apprend Médusée, une variante moderne de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie.
Au commencement, il y avait le désert, les nomades, la tradition orale et aussi la pierre, le métal, l'argile. Et puis est apparu le rouleau de papyrus. On dit que la bibliothèque d'Alexandrie possédait 700 000 rouleaux.
Une autre bibliothèque mythique est en danger. Celle-ci se trouve au nord-est de la Hongrie, dans l'abbaye bénédictine de Pannonhalma, qui a plus de 1000 ans et qui abrite la plus ancienne collection de livres du pays. 400 000 livres, dont des centaines de manuscrits d'avant Gutenberg, sont en passe d'être grignotés par des insectes qui adorent le pain, la farine, les céréales, d'où son nom, les vrillettes de pain. Soit un coléoptère de 3 mm, plus dangereux que les invasions mongoles et turques réunies, rassurez-vous. Les secours sont arrivés à la rescousse des livres, comme quoi le danger ne vient pas toujours de là où on l'attend. C'est quoi les festivals de la semaine? Où est-ce qu'on peut mettre des paillettes dans nos vies? Alors il y a Jazz à Marcia qui vient de commencer et dont la programmation est impeccable avec Ben Harper, Santana ou encore la fanfare allemande Meute. Mais j'ai deux autres propositions pour vous. Si vous aimez suer mais pas à cause de la chaleur, filez à Binic dans les Côtes d'Armor pour un festival un peu ovni, le Binic Folk and Blues Festival, qui accueille chaque année un public d'initiés sur le port de Binic dans une ambiance que je qualifierais de carrément rock, avec vue sur la mer. Cette année, c'est la scène rock australienne qui fera sauter les festivaliers. La programmation est certes pointue, mais accueillante. Et si vous vibrez plutôt sur des airs latinos, on va à Vic Ferenzac dans le Gers pour le festival de musique latino qui enjaille les amateurs de toute l'Europe et au-delà. Le tempo latino qui fête ses 30 ans cette année. Chaque soirée est un voyage dans une ville où la musique est reine. Bogota, La Havane, Rio ou Nueva York. Faites votre choix. Et c'est Yuri Buenaventura qui clôturera cette grande fiesta dimanche. Si vous êtes plutôt gastronomie du sud-ouest, il y a une rando Pato y Vino qui est aussi organisée par le festival. Des canards et du vin, on vous attend.
On raconte l'histoire du marchand de François, de Paris Presse l'intrant qui vendait dans le noir tous les journaux du soir.
Vous savez comme il faut parfois les yeux d'un autre ou d'une autre pour voir ce que l'on ne voyait plus. Le New York Times s'intéresse au dernier vendeur de journaux de rue à la criée. Il s'appelle Ali Akbar. Depuis 1974, il vend ses journaux à la criée dans les rues de Saint-Germain-des-Prés. On y apprend dans le New York Times qu'il va bientôt recevoir la Légion d'honneur. Lui, il aimerait surtout obtenir la nationalité française. On reste à Paris pour le bon plan gratos du jour. J'ai une activité pour vous. Pour la première fois, le musée d'Orsay vous propose de venir voir en direct la restauration et le nettoyage d'une œuvre, en l'occurrence Enterrement à Ornans de Gustave Courbet, unique pour tous les amateurs de vidéos de nettoyage en ASMR. On fait pas tellement mieux. Et avec moi toujours ce soir à la table du Mac de l'été, Damien Castera, on parle de votre livre « La liberté ne meurt jamais », écrit à partir de vos différents séjours en Ukraine depuis le début du conflit, pendant lesquels vous avez rencontré de nombreux activistes de la culture. Est-ce que dès le début, dès le départ, quand vous partez avec votre camion, comme vous nous l'avez dit, vous faites 3000 km seul dedans, vous pensiez à ça, à aller rencontrer des artistes, à aller rencontrer des gens plutôt dans ce domaine-là?
Non, je pensais m'arrêter à la frontière,
distribuer
mon matériel et repartir. Non, je pensais rester sur la frontière pour aider à l'accueil des réfugiés, mais comme je parlais pas l'ukrainien et ni le roumain, c'était un peu compliqué de participer aux cellules psychologiques. Donc j'ai, on va dire, troqué la Croix-Rouge pour le stylo et je suis parti en tant que journaliste sur l'ouest de l'Ukraine. Après un peu de réflexion, je voyais un peu comment était traitée l'information et je pense que il y avait un bilan un peu comptable du nombre de morts, des destructions et des stratégies militaires de part et d'autre. Et l'idée m'est venue plutôt de travailler sur le côté
vivant,
plutôt que de dénombrer les morts. Et donc travailler évidemment avec les artistes, la poésie, l'art.
Et là, la culture arrive assez vite quand on veut parler du vivant, des vivants, de ce qui survit. Dans des zones désastrées, je suis pas du tout sûr de ce mot.
Sinistré,
c'est mieux, oui.
Oui, je pense que c'est sous toutes ses formes, surtout, c'est-à-dire que l'art permet encore une fois de s'échapper. Donc quand on est cloisonné dans une cave pendant un bombardement, peindre, écrire un poème ou tenir un journal de bord ou faire de la musique, c'est s'autoriser la possibilité d'un dehors, c'est de sortir des bombardements. Ça a également ça permet également de témoigner. Généralement, je pense que tous les écrivains en Ukraine ne sont plus sur de la fiction, mais sur des journaux de bord quotidiens. Ça a transformé un peu la littérature.
Oui, c'est ce que vous avez constaté, que le réel avait pris le dessus, en fait.
Ouais, c'est compliqué d'écrire de la fiction quand la réalité dépasse tout ça. Et que c'est surtout qu'au début de la guerre, bon nombre d'écrivains avec qui j'ai discuté ne pouvaient plus écrire, notamment des romans. Et en fait, ils ont commencé à travailler sur des journaux de bord pour témoigner, peut-être pour les historiens plus tard.
Vous avez écrit de belles chroniques pour le JDD, c'est aussi la base de votre livre, ces chroniques, en tout cas c'est ce qui vous a aidé à le construire après coup. Qu'est-ce que vous aviez envie de passer dans l'écriture? Vous nous dites, je lisais ce qu'on voyait, des bilans comptables, on voyait des morts. Qu'est-ce que vous y mettiez dans l'écriture à ce moment-là?
Alors,
sachant que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « mais on n'a pas d'Hemingway pour en parler ».
La petite nuance, c'est qu'il y a le journalisme et la littérature. Et que moi, à la base, je ne suis pas journaliste, je n'étais pas écrivain non plus. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir de la littérature pour compléter, moi c'est mon tour.
C'est moi qui suis contagieuse un petit peu.
Compléter justement l'information. Je pense que les journalistes font un travail remarquable de comptabilité, beaucoup. On donne des faits, on rapporte des dates, toutes ces choses-là qui sont évidemment très importantes pour comprendre un conflit. Mais je pense que l'écrivain traite l'information d'une autre manière, en passant de l'émotion, en décrivant des atmosphères. Et je pense que les deux sont fondamentaux.
Chaque mot va être une hésitation, on est dans un mauvais...
Non mais je vois que tu attends que je me plante.
Non, c'est faux.
Donc je pense que les deux... Et c'est vrai qu'à l'époque, de la guerre d'Espagne, il y avait beaucoup d'écrivains qui s'engageaient. Aux États-Unis, il y a eu une grande tradition de ces écrivains comme les Steinbeck, les Hemingway. En France, on a Albert Londres. Et donc l'idée, bon, évidemment, c'est pas du tout de me comparer à eux, mais c'était d'utiliser la littérature comme outil pour décrire un peu ce qui se passe.
On a l'impression aussi que ce que vous cherchez, vous l'avez dit, hein, c'est la vie au milieu du chaos, comme dans ces moments-là, on peut entendre dans vos documentaires, dans votre documentaire, des soldats qui rient, par exemple.
On repart ce bus, et puis on passe au suivant.
Et ainsi de suite, toute la journée.
Et ouais, c'est ça notre vie.
On voit dans ces images, Saïbi, qu'il y a un jeune graffeur qui participe à l'effort de guerre en camouflant des véhicules civils réquisitionnés par l'armée. Voilà, on entend des rires et on a ce jeune artiste qui a un petit peu changé de braquet parce que les graffeurs, on les voit pas trop dans l'armée à la base.
Ouais, y a, en fait, tout le monde utilise ses talents propres et les utilise pour l'effort de guerre. Donc, les graffeurs sont réquisitionnés pour
camoufler,
pour
les,
camoufler les véhicules, les armes, les casques et tout, tout ce qui va avec. Et puis, les mamies font des filets de camouflage. Il faut trier l'aide humanitaire, faut trier les armes, faut s'occuper des réfugiés qui quittent l'est de l'Ukraine pour l'ouest de l'Ukraine. Enfin, voilà, tout le monde trouve une utilité.
Ce qui manifeste peut-être le plus cette espèce d'instinct de vie au milieu du chaos, c'est ce garde forestier qui s'est donné pour mission de sauver les animaux dans la forêt dont il est le garde, de sauver les animaux sous les bombes.
Ouais, parce qu'au milieu de tout ça, on oublie un peu les animaux. Y a des zoos, il y a des fermes, il y a les animaux sauvages qui sont complètement déboussolés parce qu'il y a des mines partout, qu'il y a des bombardements intenses, qu'il y a des produits chimiques qui se déversent, qu'il y a des barrages qui sautent. Et donc, au milieu de tout ce chaos, à l'est de l'Ukraine, quand j'étais sur la contre-offensive de Kharkiv, au mois de mai 2022, j'ai rencontré ce garde forestier éleveur de chiens qui, je ne sais pas s'il était animé d'une certaine misanthropie, mais en tout cas...
Il risquait sa vie pour
sauver la vie des bêtes. Je trouve ça très beau, très symbolique et en même temps très universel. Et c'est vrai que c'est le genre de personnage qui vous réconcilie avec l'espèce.
Et puis on l'a dit tout à l'heure, hein, mais la fin de votre livre raconte aussi vraiment par contraste l'espoir qui quand même s'amenuise, l'élan qui tombe un petit peu, la difficulté de continuer à y croire. David, un soldat par exemple, vous fait part de sa rancœur envers ceux qui restent derrière, mais même envers les Ukrainiens qui restent derrière, qui sont dans les bars à Kiev. Je crois qu'il y avait un moment une expression qui disait les Ukrainiens du matcha latte, quoi, ceux qui boivent du matcha pendant que nous on est à la guerre. C'est une rancœur que même vous avez pu avoir, par exemple en rentrant après.
Alors, pour être honnête, c'est pas vraiment une rancœur, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que ce soldat me dit on se bat pour que la vie continue normalement. Donc on se bat pour que les restaurants soient ouverts, pour que les lieux culturels fonctionnent, que les gens puissent aller au cinéma. Mais en même temps, le non-renouvellement des troupes fait que, au bout de 2 ans dans les tranchées ou 3 ans dans les tranchées, quand on allume Instagram ou les réseaux sociaux, on voit qu'à l'arrière du pays, c'est la fête. Et c'est sûr que c'est très dur, quoi, parce qu'eux, ils sont dans la boue, ils sont pas renouvelés, et donc ils se posent des questions sur est-ce qu'il y en a qui sont planqués, qui vont jamais être appelés. Voilà, donc c'est un paradoxe, c'est juste qu'ils sont fatigués et que, évidemment, que c'est un peu compliqué de voir les gens faire la fête à l'arrière du pays, et en même temps, ils veulent pas que ces gens-là s'arrêtent de faire la fête.
Vous, quand vous rentrez en France après ces 3 voyages, vous avez pas cette histoire de paradoxe, mais ce truc de vous dire c'est fou, ça se passe à... Bon, là, on est 3000 kilomètres et c'est quand même pas bien loin.
Ouais, c'est très bizarre. Moi, je suis arrivé après les 2 mois intenses au début de la guerre où on est rentré donc au tout début de l'été sur le Pays Basque et que c'était le début des festivités. Tout le monde était à la plage pour faire des barbecues, les bars étaient remplis. Il y a un petit temps pour digérer l'expérience et les émotions, ça c'est sûr. Et après, justement, cette digestion permet, le temps long permet de comprendre pas mal de choses, notamment le fait que, qu'avant d'être un privilège, la liberté est un combat, et que je pense que ça c'est quelque chose qu'on a oublié, qu'on pense que tout est acquis, et qu'on voit bien la crise des démocraties partout sur la planète, on voit que tout est fragile. Et voilà, ces expériences qui permettent un peu de réfléchir l'histoire en temps réel, quoi.
La liberté ne meurt jamais, c'est le titre de votre livre. Vous êtes un grand voyageur, Damien Castéra. Vous avez même à un moment entrepris des voyages pour guérir, peut-être pour vous fuir un peu. C'est ce que vous racontez dans votre livre après le décès accidentel de votre petit frère. J'ai eu envie qu'on en discute de voyage comme peut-être thérapie avec Juliette Maurice, de ce que les philosophes pensent du voyage. Elle, c'est l'autrice de Renoncer au voyage. Elle nous rejoindra juste après ce beau titre de Obong Yajar, Sweet Danger, extrait de l'album Paradise Now.
You like the bad boys, yeah, I'm a bad boy. Can't stop, won't stop. Oh. And she says she like I'm rough. You provide me like a cowboy, I'm your cowboy. Can't stop, won't stop. Oh. You sweet like sugar. Let me taste your sugar. It can be super. It can be super. Cause you sweet like sugar. Let me taste your sugar.
C'était le Sweet Danger de Obong Jayar dans vos oreilles.
France Inter, le mag de l'été.
Damien Castera, vous êtes toujours avec nous. On a parlé de Sœurs, de votre livre La liberté ne meurt jamais. Vous êtes par ailleurs une sorte d'explorateur des temps modernes. Et on vient d'être augmenté ici à la table du mag de l'été d'une personne, une philosophe qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Juliette Maurice.
Bonsoir.
Il y a un an, peu ou prou, sortait votre livre Renoncer au voyage, point d'interrogation.
Non. Pas point d'interrogation.
C'est moi. Je suis désolée,
c'est moi qui l'ai inventé.
C'est incroyable.
Mais oui, je l'ai eu sous les yeux en plus.
Parce que c'est plutôt une question que vous posez.
Non, en fait, c'est un renoncer ER, je suis d'accord.
Ouais.
Mais il n'y a pas de point d'interrogation.
Okay. On est très clair avec ça. Écoutez, c'est un jour où je me mélange un peu les pinceaux. Une enquête philosophique très claire, donc à emporter en voyage absolument, ça va vous aider. Où vous confrontez des écrits de philosophes, mais aussi de grands voyageurs sur le voyage. D'où est parti votre questionnement, même si j'ai bien compris qu'il n'y a pas de point d'interrogation.
Je suis désolée.
Mais pas de problème.
Non, mais en plus.
C'est le nom de votre livre, après
tout. Il n'y a pas de point d'interrogation, mais il y a le sous-titre Une enquête. Et c'est vrai qu'on est dans une démarche sceptique. Il y a une réflexion et il n'y a pas de prescription. Ce n'est pas renoncer tous au voyage, évidemment. Donc, en cela, vous avez raison.
Un des grands topos de cette littérature de voyage, c'est que parfois on voyage pour guérir, pour se retrouver. Damien Castera, dans votre expérience personnelle, vous avez traversé des épreuves difficiles, un deuil important. Est-ce que le voyage, partir loin, ça a été une aide ?
Alors, c'est pas le voyage du tout qui, c'est pas le défilement kilométrique qui fait que ça atténue les souffrances. Ça, c'est une image qu'on a du voyage, mais qui est à mon avis erronée. Mais par contre, c'est le petit aphorisme que je cite au début de mon livre de Fernando Pessoa, qui dit agir, c'est connaître le repos. Je pense que moi, c'était l'action qui m'a permis justement de me reposer la tête.
Un petit peu. Voilà. Quand disent justement les philosophes, Juliette Maurice, qu'est-ce qu'on retient des écrivains voyageurs sur cette question d'un voyage qui pourrait être thérapeutique, où on pourrait se retrouver?
Alors, c'est une grande question, celle du voyage thérapeutique depuis l'Antiquité. Et évidemment, ça fait partie aussi, mais Damien m'en voudra pas du tout, aussi de ces mythes qu'on associe au voyage.
Et j'ai essayé de gratter un petit peu. Parce qu'il m'en a voulu à moi en me disant, ne dis pas que c'est un voyage thérapeutique,
voilà,
enfin, c'est pas du développement personnel.
Non, mais c'est une grande question. Est-ce que les voyages rendent plus heureux? Est-ce que les voyages rendent meilleurs? Est-ce que changer de lieu, ça permet d'aller mieux, par exemple? Et d'ailleurs, c'est une idée extrêmement étrange. Pourquoi le déplacement géographique permettrait de changer moralement ou de changer l'intérieur du sujet qui se déplace? Et ça fait partie des grandes questions que je pose. Enfin, des grandes questions. C'est des questions qui traversent l'histoire de la philosophie que j'aborde. Il y a quelque chose dans l'aphorisme de Pessoa que je trouve extrêmement intéressant et en fait qui croise un texte que j'ai malheureusement découvert après l'écriture de mon livre, ça arrive souvent, qui pourra vous intéresser aussi, Damien. C'est un texte de Francis Ponge qui écrit une lettre et qui dit, et ça finalement je trouve que c'est une petite lettre, ça fait pas partie des grands textes qu'on cite sur, voilà, c'est pas un texte de philosophe d'ailleurs, mais qui dit quelque chose de très vrai, c'est en fait, voyager, c'est un état intermédiaire entre la contemplation et l'action. Et ça voilà, c'est une grande séparation, hein, vie active, vie contemplative. Il dit, ça nous repose de l'un et de l'autre. Ce n'est ni de la contemplation, mais le voir joue un rôle essentiel, ni de l'action pure et simple. Parfois aussi, on n'agit pas, on se laisse porter, on s'ennuie. Mais les deux sont sollicités en même temps et il y a quelque chose. C'est là qu'est la thérapie, c'est pas dans l'histoire de « je vais me trouver moi-même ». C'est dans cette espèce d'alliance comme ça, très équilibré de l'action et de la contemplation. Voilà.
Ça vous parle, Damien ?
Je valide complètement.
Merci. Merci.
Mais c'est sûr que de penser le voyage thérapeutique comme une sorte de développement personnel, je fais attention à ça.
C'est quelque chose sur lequel vous insistez, notamment parce que là, on parlait en plus de la guerre en Ukraine et où on n'a pas du tout envie d'en
parler. Non, mais je veux dire, si on est triste, voyager, c'est faire voir du pays à sa tristesse.
Exactement.
C'est, on part avec. Donc, je pense que c'est plutôt comment on voyage et pourquoi on voyage. Et, voilà, mais...
Une des grandes motivations du voyage dans l'histoire, ça a été de documenter des endroits, d'explorer des nouveaux espaces, de les décrire. Est-ce que la question de renoncer au voyage, Juliette Maurice, c'est aussi de se demander à quoi ça sert aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus tant d'endroits à explorer ?
Oui, alors effectivement, pendant toute une période de l'histoire, quand il y avait encore beaucoup de blanc sur la carte, on savait un peu, alors si on voyageait pour cette raison-là, hein, parce qu'on peut voyager pour plein de raisons différentes qu'on a un petit peu évoquées, mais évidemment, alors il y a tout un discours qui naît, notamment d'ailleurs... au XXe siècle, il y a toute cette notion, ce qui devient même un topos, de fin des voyages. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a l'impression que on a un petit peu fait le tour, qui va avec aussi l'idée de rotondité de la Terre. Et c'est vraiment cette idée de on a fait le tour, on a fait le tour de la
c'est
question.
C'est bon, on arrête.
Et voilà, cette idée d'avoir. Alors évidemment, ce qui est une objection contre cette idée, c'est que on est pris dans une histoire, qu'il y a des guerres, comme le rappelle l'expérience de Damien, et que on est toujours dans le mouvement et qu'il y a toujours des choses à aller voir pour renseigner aussi, pour informer, en fait. Donc, s'il n'y a plus spatialement, peut-être, voilà, de trop de contrées qui n'ont jamais été arpentées, au moins, en tout cas, on est toujours dans l'histoire et donc, on aura toujours à aller voir ailleurs, en fait, ce qui se passe.
Il reste des endroits à explorer, Damien Castera, des endroits à explorer sans faire trop de dégâts.
Les abysses et l'espace. Mais non, il y a quelques arpents de forêt encore, mais bon, il vaut mieux les laisser comme ils sont, je pense que en Papouasie, en Amérique du Sud un peu, mais c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus de terra incognita, ça c'est certain.
Juliette Maurice, vous citez Nicolas Bouvier, l'auteur de L'Usage du Monde, entre autres, je suis sûre que vous l'avez lu, Damien Castera, si vous avez été nourri au récit de voyage, qui parle d'une morale du risque. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Mais c'est vraiment, on en revient à cette notion d'action, en fait. Hein. C'est l'idée que, alors, c'est aussi, enfin, c'est ce qui est curieux, c'est qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, il faut un peu donner de sa personne. Et il y a un coefficient de souffrance qui est un peu étonnant. C'est-à-dire qu'on se dit, mais parce qu'on associe aujourd'hui hein, le voyage souvent au plaisir et aux vacances, et il y a un coefficient de plaisir, mais c'est l'idée qu'il faut y aller, qu'il faut se jeter à l'eau. Autrement dit, qu'effectivement, le voyage relève en dernier ressort de l'action. Quitte à, dit Bouvier, y laisser des plumes. Parce que c'est ce qui est susceptible de rendre le voyage intéressant. Quitte à être malade, hein, c'était le cas souvent pour lui. Là
oui,
aussi,
il est beaucoup tombé malade.
Oui, et c'est vrai d'ailleurs, il y a un prix à payer, il y a cette morale du risque. Alors, je sais, elle est, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, elle est quand même difficile à interpréter pour ce qui le concerne lui. Mais en tout cas, le risque, c'est évidemment une notion intrinsèquement liée au voyage, quel que soit le voyage qu'on considère. C'est-à-dire,
après, chacun voit le risque à sa porte.
Voilà,
c'est-à-dire que
qu'on regarde l'aventure, évidemment, ou le voyage du touriste lambda. En fait, il y a malgré tout, hein, moi j'ai tendance à défendre les touristes lambda, peut-être parce que j'en fais partie. Il y a toujours, dans le moment du départ, il y a toujours un tout petit risque à un moment où on part, on agit, on fait quelque chose en fait. Peut-être ça n'a pas beaucoup de sens d'ailleurs, mais on fait quelque chose effectivement, on est toujours dans cette notion d'action en fait.
Et de repos. Du cerveau. En une seconde, Damien Castera, vous qui êtes parti en Ukraine, qui vous êtes retrouvé au front, qui vous êtes mis dans des situations qui peuvent être dangereuses, c'est quoi votre rapport au risque? Quand on dit morale du risque.
Alors,
En une seconde.
C'est vraiment, je suis pas du tout une tête brûlée. C'est vrai, en plus, c'est pas de la fausse modestie. En Ukraine, le seul truc, c'est que le voyage a été progressif et qu'évidemment, si on m'avait dit dès le début que j'allais finir au front dans des tranchées avec un casque, un gilet pare-balles, je pense que je serais pas allé. Mais en fait, là, c'est jour après jour, on avance et on est pris dans quelque chose qui est d'ailleurs assez dangereux, c'est qu'il faut arriver à s'en sortir de ça.
Ouais, à dire stop. Cette émission touche à sa fin. J'aimerais votre kit de survie à l'été à tous les deux. Vous êtes deux grands lecteurs de récits de voyage. Je veux vos recommandations. Juliette Maurice, un livre à lire si on veut se convaincre qu'on a bien raison de détester les voyages.
Un livre avec pas mal de vacuité de maladie, je dirais Ecuador de Henri Michaud.
Oui, il attend beaucoup.
Mais c'est très beau en même temps. Hein.
Damien Castera, une œuvre à lire, à regarder, écouter si on a envie de partir en Alaska. Je sais que vous vous renseignez beaucoup avant de partir.
Voilà, tous les Jack London sur l'Alaska, avec une préférence pour L'Appel de la forêt, même s'il est très connu déjà, et Le silence blanc, je pense.
Juliette Maurice, un livre à lire si on veut s'évader, rêver, mais sans bouger d'un iota, d'un pouce.
Bon, on a parlé un peu de Bouvier, L'usage du monde, c'est très beau.
C'est très bien.
Bon, c'est déjà assez connu. Moins connu peut-être, S'évader, mais sans aller très loin, Les passagers de Roissy Express de Maspero.
Et Damien Castéra, la dernière, Le meilleur récit de voyage réussi.
Alors, il n'est pas tout à fait réussi, mais pas loin. Donc, c'est Stéphane Zweig sur Magellan.
Magellan. Et Juliette Maury, je sais, citez-le juste. C'est un récit de voyage raté. Je sais que vous voulez le dire.
J'adore Martha Gellhorn. On n'a pas cité de voyageuse en plus. Hein. Mes saisons en enfer, c'est
que des voyages ratés.
Voilà. Voyage cauchemardesque et réjouissant.
Les différentes recommandations pour partir en voyage ou pas du kit sont à retrouver sur le site et sur l'appli Radio France, évidemment. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Damien Castéra, votre roman La liberté ne meurt jamais, c'est chez Gallimard. Il est disponible en librairie et comme je le disais, il y a aussi le documentaire qui est disponible sur YouTube. Merci à vous Juliette Maurice.
Merci.
On emporte dans nos valises votre essai Renoncer au voyage sans point d'interrogation, publié aux presses universitaires de France. Un joli et joyeux mois de juillet à tous les deux. Ça touche à sa fin. C'était le Mac de l'été avec Marion Philippe, Tarana Touri, Ibrahim Damani à la préparation de cette émission, Lucie Lemarchand à la réalisation, Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale et à la technique, Adèle Caglard.